Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h40 sur France Inter et l'instant M démarre en trombe.
Vous êtes en direct, allez-y.
Inconnu pour les uns, objet de culte pour les autres. Il a 700 000 abonnés sur YouTube, ça fait une sacrée communauté mobilisée. Or si demain soir il remporte son ticket pour l'Eurovision, là c'est sûr, quel que soit votre âge ou votre bulle, vous entendrez parler de lui. 19 ans, il aime jouer les têtes à claques, surtout lorsqu'il s'agit d'affronter les haters, c'est-à-dire ceux qui déversent leur haine sur les réseaux sociaux, jusqu'à parfois la menace de mort. Bilal Hassani, personnage queer, dit son homosexualité avec le sourire, rit de son maquillage, aime ses perruques et s'aime beaucoup lui-même, ce qu'il est, ce qu'il a toujours été depuis la petite enfance. Il a même ressorti les photos de famille pour donner corps à la chanson qu'il met demain en compétition pour l'Eurovision.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et votre clip avec les vidéos que tournait sûrement votre maman quand vous étiez petit, qu'on peut voir sur la page de l'Instant M. Le single Roi de Bilal Hassani. Bonjour Bilal.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. C'est votre
Merci
maman
beaucoup.
Qui tournait ces vidéos.
C'est ma maman.
C'est des films de famille.
Ouais, c'était ma maman, c'est des films de famille, ouais. Qu'elle a retrouvé justement au moment où on a eu l'idée de faire cette lyrics ouais. vidéo avec des images un peu d'archives. Elle se rappelait même plus d'avoir filmé tous ces trucs. Et c'était une semaine où je la voyais en train de récupérer les images et de pleurer devant son ordinateur toute la journée en train de numériser tout, c'était...
Alors, ça s'approche, le public votera à partir de demain soir sur France 2, destination Eurovision, présentée par Christophe Willem. Alors le vendredi, cher ami, on joue avec les archives de la radio et de la télévision. Ce matin, j'offre au premier auditeur qui m'envoie un mail une trilogie de Goldoni, mise en scène par Giorgio Strehler, c'était un grand grand metteur en scène italien. Ça a été capté par la télévision en 1979, vous n'étiez pas né. L'adresse toujours la même, l'instant M à radiofrance.com et la question... Qui a chanté le Papa Pingouin à l'Eurovision en 1980, délicieuse Archivina.
Papa est dans le métier et depuis toute petite, ils sont vus dans ce milieu-là, donc c'est ça qui nous a poussé à chanter.
Et votre première chanson a été un tube
Oui, Papa Pingouin.
L'instant M@radiofrance.com. Le vendredi, c'est la Madeleine aussi de Bruno Denet. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia.
Il s'en souvient, lui, du papa pingouin. Cette semaine, Bruno, toutes les chaînes ont diffusé en boucle les images de cet ancien boxeur en train de rouer de coups un gendarme. Pourtant, c'est une toute autre image qui a retenu votre attention. Une image qui vous a donné envie de nous parler ce matin de la mise en scène de l'anonymat.
Oui Sonia, cette semaine, la séquence la plus spectaculaire, c'était incontestablement celle-ci.
C'est un homme vêtu de noir, ancien boxeur professionnel, qui frappe un gendarme à coups de poing.
Seulement voilà, s'il s'agissait bel et bien de l'image la plus effrayante de la semaine, était-elle pour autant la plus choquante? Eh bien la réponse est non. Non, parce qu'elle présentait une particularité de taille, un mérite, celui de nous montrer, ô rareté, un homme au visage découvert. Ce qui a permis, excusez du peu, aux médias de parfaitement l'identifier.
Surnommé le Gitan de Massy, ce colosse est un ancien boxeur. Champion de France professionnel en 2007.
Voilà, et à la justice de lui appliquer la comparution immédiate. En revanche, figurez-vous que j'ai vu dimanche une toute autre séquence filmée en marge de la manif des Gilets jaunes de samedi. On y entendait un homme s'adresser aux gendarmes et leur dire ça.
On va être armés la prochaine fois. On sera pire que vous. Vous allez voir, vous allez prendre cher.
Voilà, vous avez bien entendu, un homme menaçait donc des flics, non plus de leur péter la gueule à coups de poing, mais bien de venir leur tirer dessus avec des armes. Le problème, c'est que si on entendait parfaitement bien sa voix, on ne voyait pas son visage, car en plus de son gilet jaune, cet homme portait un masque de carnaval doré, rehaussé d'une casquette à rabat de fourrure sur les oreilles, un assemblage qui dissimulait donc le moindre millimètre carré de sa peau. Bref, ce très vaillant manifestant était donc parfaitement anonyme. Alors que ce garçon choisisse de se planquer derrière un masque pour proférer ses terrifiantes menaces, ça le regarde. Mais est-ce le rôle de la télévision de diffuser ses propos? Est-ce le boulot des journalistes d'aller relayer et amplifier rien de moins que l'appel à prendre les armes contre les forces de l'ordre d'un type dont on ne sait ni qui il est, ni d'où il vient, et encore moins ce qu'il réclame? Eh bien ces questions-là, Sonia, il semblerait que plus grand monde ne se les pose, comme si une barrière venait d'être allègrement franchie entre ce qui se passe communément dans l'espace numérique et ce qu'on nous montre désormais dans les journaux de 20h. Il y a, vous le savez tous, sur les réseaux sociaux, des ribambelles de pleutres qui, bien tranquillement planquées derrière des pseudonymes totalement inidentifiables, passent leur journée à balancer des saloperies ou à proférer des menaces à l'encontre de tous ceux dont ils ne partagent pas l'opinion. Mais est-ce que parce que ces consternantes pratiques sont devenues monnaie courante sur Internet, on doit aussi se les taper sur tous les grands médias? Où est le rôle de filtre? Où est la valeur d'exemple? Et où se situe l'information quand on donne la parole à un sac à dos, à une paire de godasses ou à un masque de carnaval? La réponse est comme souvent dans la question. Voilà pourquoi je suis personnellement prêt à ouvrir une grande cagnotte litchi qui financerait un séminaire de réflexion sur tous ces thèmes et peut-être même une deuxième qui permettrait, qui sait, à tous ces courageux qui, rien qu'au cours de cette semaine, ont menacé de mort le caricaturiste du Courrier Picard parce qu'il avait dessiné des gilets jaunes, un député parce qu'il était noir, et appelé à violer Marlène Schiappa, tout ça naturellement très tranquillement tapis dans le maquis de l'anonymat, de pouvoir enfin en sortir pour aller s'offrir, par exemple, une petite paire de couilles. Bonne journée.
On dit couilles sur France Inter?
On dit tout ce qu'on veut, vous savez bien.
Bruno Denet est donc à réécouter sur franceinter.fr. Je félicite au passage notre gagnant. Il s'appelle Arnaud. Il fallait deviner non pas Carlos, parce qu'on a eu beaucoup de réponses qui nous disent c'est Carlos qui chantait le papa pingouin. Non pas Dorothée non plus, non pas Chantal Goya, mais Sophie et Magali. C'était deux jumelles, elles étaient super jeunes. Elles avaient 16 ans, Bilal Hassani, 16 ans, candidate luxembourgeoise à l'Eurovision en 1980. Bilal Hassani, la transition, elle est toute faite. C'est très intéressant ce que vous faites, vous, sur votre chaîne YouTube. Des attaques reçues sur les réseaux sociaux. Je le dis, parfois, vous arrêtez de rire, tout simplement. Vous arrêtez de déconner. Vous sortez de votre personnage médiatique. Vous les lisez, ces messages, vous les affichez, extrait.
Pourquoi tu faisais pas un concert un certain 13 novembre 2015 au Bataclan, sale bâtard? Tu devrais essayer le Bataclan comme salle. Une cagoule et une bombe et le tour est joué. Petite bombe discretos et oh, plus de despos. Salah Abdeslam, jamais là quand il faut. C'est des choses qui se sont passées dans la vraie vie où des gens sont morts, des gens ont perdu leur vie dans ces actes terroristes et vous êtes en train d'en faire des blagues pour troller sur Twitter. Quel est l'intérêt? Et ça c'est grave.
Voilà, Bilal Hassani, extrait de l'une de vos vidéos. Ouais. Dans les autres, vous pouvez allègrement parler de vos perruques et de maquillage. Il y a un moment, là, ça s'arrête.
C'est ça.
Ouais.
Ben, la haine, en fait, on est un peu conditionné quand on est sur YouTube, quand on est sur Internet. On est conditionné à s'en foutre, en fait, à ne pas y prêter attention. À
pourquoi?
Se dire...
Parce que c'est normal.
Ben, c'est un peu le truc, genre, ben, t'as voulu t'exposer, donc maintenant assume, tu
c'est
vas
les
recevoir
risques du
de
métier.
La haine, c'est les risques du métier, etc. Voilà. Donc, moi, au début, c'était
donc,
un
quelque
petit
part,
peu,
c'est une façon d'intégrer l'idée que c'est mérité, que c'est celui qui s'expose et que c'est parce qu'il s'expose qu'il mérite cela.
Exactement. Mmh. Sauf que, au bout d'un moment, la haine, c'est difficile à supporter. Moi, je pouvais plus la supporter et j'ai décidé d'enlever cette petite armure. Qui est complètement bête en fait qu'on se met pour pas être vraiment affecté par tout ça en se disant bon c'est pas grave j'assume on s'en fiche mais en fait ça nous touche vraiment moi ça m'a vraiment touché et
vous
puis
dites,
on est obligé
vous
de
dites,
parler
Bilal Hassani, vous dites Twitter c'est mon réseau social préféré
mais c'est le pire aussi en fait Twitter c'est un réseau social que j'adore parce qu'en fait il offre la parole à un peu tout le monde et il y a plein d'opinions, il y a plein de conversations qui sont super intéressantes qui sont des fois ouvertes sur Twitter. Après c'est vrai que c'est un monde à part et que justement vu que c'est un peu la porte ouverte à tout le monde et ben il y a des choses vraiment atroces qui peuvent circuler sur ce réseau.
Et pourtant vous n'abandonnez pas la provocation, vous appuyez votre côté
tête à claque à merveille. Vous enregistrez aussi une vidéo qui dit millionnaire grâce aux haters. Yes. Alors ça, dans le genre doigt d'honneur, on a quand même rarement fait mieux. Donc on peut la décrire, vous voulez la raconter un petit peu cette vidéo à l'image?
Le concept en gros de cette vidéo, c'était que je voulais répondre aux haters de manière un petit peu plus sarcastique. Il y a beaucoup de choses qui revenaient du genre, il y avait des haters qui disaient « Oh, arrêtez de l'insulter parce que vous lui donnez trop d'attention, il va commencer à être riche à cause de vous, enfin grâce à vous. » Et donc j'ai joué de ça et puis j'ai fait genre « Regardez toute la haine que vous me donnez. » Et puis,
donc là, vous êtes filmé dans un appart.
Dans un appartement somptueux qui n'est pas du tout le mien. Et j'ai repris un petit peu le concept de Vogue, qui est 73 questions. Ils font ça avec des grandes stars. Et donc, moi, je l'ai refait un petit peu, pour me moquer des haters.
Provoque jusqu'au bout des ongles. Vous tentez aussi une vidéo mea culpa.
Je voudrais commencer par remercier tous les haters qui m'ont bien aidé à quand même réaliser que ce que je faisais, c'était du grand n'importe quoi. J'ai beaucoup réfléchi et puis je me suis rendu compte que ce que je faisais c'est complètement contre nature, que ça va complètement au-delà des limites du moral. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter. Donc les perruques, je les ai jetées, le make-up, c'est bon. Et que j'arrête de faire la fille sur internet.
Je me suis laissé prendre pendant quelques minutes.
Ah ouais?
Qu'est-ce que c'est qu'un prank?
Alors,
dans la culture web.
Dans la culture web, un prank, en fait, c'est quand tu vas faire une sorte de blague orchestrée un petit peu. Là, c'est en vidéo où genre tu vas faire croire à quelqu'un ou ou un groupe de personnes quelque chose qui est faux, ou tu vas, des fois il y a des pranks qui vont un petit peu trop loin, des trucs que je trouve pas spécialement amusants parce qu'internet des fois mais moi j'avais décidé de pranker tout le monde, donc j'ai pas voulu faire un truc ciblé à une amie ou quelque chose, et donc j'ai pris ma meilleure pote Inès, à qui je fais des gros bisous, et j'ai dit c'est ma copine, je vais me marier avec elle, je suis plus homosexuel, j'ai fait le choix de devenir
hétéro.
Ce qui
est super intéressant là-dedans, Bilal Hassani, c'est que vous reprenez tous les éléments de langage de l'homophobie ordinaire.
Exactement.
Le droit chemin.
C'est ça, le droit chemin, le fait que c'est contre nature, etc. J'ai repris tous ces codes, je les ai fichus un petit peu sur 3 minutes, un petit peu, et t'as l'impression que je suis dans une désillusion, que je suis devenu complètement fou, et puis après, au milieu de la vidéo, je remets la perruque et j'annonce que c'est un prank, évidemment. Mais c'est parce que, j'ai essayé, et puis tu l'as bien montré, d'aborder le sujet de ces haters de manière un petit peu différente.
Il y a plusieurs facettes dans votre démarche. Ouais. 700 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme.
Ouais.
Mais Destination Eurovision, animée par Garou et non pas par Christophe Willem, comme j'ai dit tout à l'heure. Christophe Willem, André Manoukian et Vita sont des experts, en fait, qui vont être là pour encadrer la petite vingtaine de candidats. Destination Eurovision, c'est quand même 2 millions de téléspectateurs l'année dernière. Et l'Eurovision, si vous représentez la France au final, c'est 5 millions rien qu'en France. Donc l'exposition, elle est énorme. La télévision, ça reste quand même un média de masse. Et c'est du prime time. C'est quoi? On se dit qu'on va affronter encore plus de succès, plus d'amour, plus de public, mais aussi plus de haine, plus de critiques.
Alors j'ai pris une petite résolution après ce qui m'était arrivé la semaine du 13 novembre dernier où il y avait eu toutes ces insultes un peu folles. J'ai porté plainte et donc maintenant je ne donne vraiment plus aucune importance à la haine, c'est-à-dire que j'en parle plus, mais c'est pas parce que je veux enfouer mon chagrin ou quoi que ce soit, c'est juste que vraiment j'y prête plus attention et maintenant si je veux m'en occuper c'est avec la justice. Donc voilà, maintenant ça m'a facilité beaucoup la tâche voilà.
Et surtout, on se disait, c'est de la télévision, oui, c'est de la télévision très grand public, mais c'est l'Eurovision.
C'est quand
même l'Eurovision. Et il y a un mais. Est-ce que c'était une évidence pour vous que l'Eurovision peut être un lieu de liberté, comme on l'a pas beaucoup à la télévision, en France et à l'étranger? Je vous fais écouter quelqu'un qui a remporté l'Eurovision l'année qui précède celle de votre naissance. On est en 1998, vous allez la reconnaître évidemment.
Bien sûr. Viva Maria, viva Victoria,
Afrodita. Viva Maria. C'est qui?
Dana International.
Dana International, star israélienne transgenre. À l'époque, menacée de mort par les juifs intégristes dans son pays. Elle a même été obligée de, de s'enfuir. Ça a été une rupture, Bilal Hassani, dans l'histoire de l'Eurovision. Vous vous en souvenez pas, mais Bruno Donnet et moi, quand on était petits,
c'était... Merci de me traiter de vieux.
Non, mais aussi vieux que moi. Enfin, 1974, c'est le règne d'Abba, Waterloo, etc. Et ensuite, c'est des années de disco scandinave où tout le monde fait exactement la même chose. Et Dana International, c'est un twist énorme pour l'Eurovision, Bilal Hassani.
Ouais, non, carrément. Et je pense que depuis, il y a beaucoup plus d'ouverture dans ce show, et je trouve ça super beau parce que déjà depuis le début, ce show il a toujours été très intéressant parce que ça c'est un message un peu d'unisson et de paix en fait, où tout le monde se rassemble et chante, et quand on chante une chanson qu'on amène, et ben on amène sa personne, et ce qui est super bien avec l'Eurovision, c'est qu'en fait on a plein de personnalités, plein de personnes qui sont très atypiques qui viennent, et c'est super cool.
Voilà, et vous c'était déjà il y a 3 ans, vous étiez candidat dans The Voice Kids, vous étiez tout minot, vous aviez à peine 15 ans et vous chantiez ça. From the fading light of night, rise like a phoenix, our ashes seeking brother. Donc ça c'est le tube de Conchita Wurst, Conchita Wurst, drag queen autrichienne qui gagne en 2014 avec Rise Like a Phoenix, et qui, contrairement aux drags des années 90 ou à RuPaul's par exemple, conserve la barbe. Et là, il y a quand même toute une réflexion et tout un changement, tout plein de choses qui arrivent aux yeux du grand public grâce à Conchita Wurst. C'est-à-dire que tous ces codes-là, du travestissement, de l'intersexualité, de la transsexualité, etc., changent petit à petit. Beaucoup moins caricaturaux que ce que les critiques peuvent en dire.
Je trouve que c'était un super beau moment. Moi, après, j'ai pas vraiment réfléchi à ce que j'étais en train de... J'étais témoin, en fait, d'un spectacle, et j'étais juste... comme un enfant devant ma télévision quand j'étais un enfant et donc je voyais Conchita avec cette barbe et cette robe et cette prestance, et c'est pour ça que Conchita, ça reste une figure vraiment iconique pour moi, parce que j'ai trouvé ça magnifique, et ça a bien montré la complexité, la diversité dans le monde du drag. En fait, c'est quelque chose que moi je ne fais pas, mais le drag c'est tout un art, et il y a différentes facettes, il y a différents types de drag performance, et Conchita est l'un de ces, voilà, c'était formidable.
Alors j'en viens à votre personnage, vous Bilal Hassani, parce qu'il y a beaucoup de nos auditeurs qui n'ont pas vu vos vidéos, qui est aussi super intéressant et extrêmement subtil, là encore pas du tout dans la caricature qu'on imagine si on lit simplement vos détracteurs. Vous piochez beaucoup dans les attributs féminins, la perruque, je l'ai dit, vous l'avez d'ailleurs ce matin, l'une de vos perruques, le maquillage, les leggings, les croc tops, c'est-à-dire les petits hauts très juste sous la poitrine, qui laissent apparaître le ventre, le nombril, etc. En même temps, vous n'êtes jamais en jupe, jamais en talons, vous n'êtes jamais habillée en femme, en réalité. Ou c'est une autre sorte de féminité?
C'est une petite part de féminité. En fait, c'est pas quelque chose qui pour moi était attribué à la femme initialement. C'est juste j'étais attirée par ça depuis que je suis tout petit, et j'ai toujours eu un entourage très ouvert. Donc ma maman surtout m'a jamais donné l'impression que ce que je faisais, ce que j'avais envie de porter ou ce qui m'attirait était étrange, bizarre ou hors de la norme. Alors j'ai fait mon parcours un petit peu tranquillement par rapport à ça. Bon, malgré tout, il y a eu quand même l'école et tout.
Le clip du single qui va.
Oui, voilà, c'est ça. Et j'avais mes torchons.
Heureuse, heureuse et souriante. Il y a quelque chose de très solaire dans ce que vous racontez.
J'ai passé une merveilleuse enfance. Après, bon, évidemment, il y a eu le collège, il y a eu l'école. Donc après, il y a eu un petit peu ce petit blocage, et puis un déblocage encore ces 2-3 dernières années. Mais donc, en fait, je pioche un petit peu partout là où ça me plaît, en fait.
Vous piochez et vous abandonnez aussi. Il y a plein d'attributs féminins qui vous intéressent absolument pas, qui sont pas vous, en réalité. Et je me disais, vous redéfinissez pas vraiment les genres, vous redéfinissez les codes de la masculinité, c'est une autre façon d'être un mec, en fait.
Exactement. Voilà, moi je suis un mec qui s'habille un peu comme il veut, je mets des perruques, je mets du maquillage. Après, je mets pas énormément de maquillage parce que c'est pas quelque chose qui me plaît. Et j'aime beaucoup dissocier ce que je fais de l'art du drag, parce que des fois on me dit que je suis une drag queen et je trouve ça assez irrespectueux envers les drag queens. Et donc j'ai invité une drag queen. C'est ça, j'ai invité une drag queen de la scène parisienne qui s'appelle Calypso Overkill à me maquiller sur ma chaîne. Et ça a bien montré aux gens qui me regardaient la différence, en fait, entre moi, le petit mascara et le gloss que je mets, et toutes ces 3 heures de transformation qu'il y a dans le drag. Mais ouais, je choisis un petit peu un peu de tout, quoi.
Merci beaucoup, Bilal Hassani. Bonne chance
Merci
à vous
beaucoup.
Et à tous les autres candidats qui commencent le long parcours de Destination Eurovision demain soir sur France 2. Votre single s'appelle Roi. Et évidemment, on peut voir cette vidéo dont on parle avec les films d'enfance tournés par votre maman sur la page de l'émission. À bientôt, Bilal Hassani. Merci à toute mon équipe, François Audouin à la réalisation, Redouane Tella, Anne-Cécile Perrin qui ont écouté votre chanson en boucle hier toute la journée. Grégory Wallon à la technique. Dans un instant, vous allez retrouver Ali Rebéi qui va vous parler de la façon dont les algorithmes dictent notre vie quotidienne.